Vous écoutez
RMC. RMC, intégrale Coupe du Monde.
Simon Dutin.
Entouré ce soir par Younes Belhanda, Hilton Mokolo, nos consultants qui vous accompagnent jusqu'à 22h avant de faire la passe en profondeur à Nicolas Jamin qui officiera aux platines de l'After en compagnie de Walid Acharchour et Maxime Chanot, RMC Radio officielle du Mondial 2026. Vous ne manquerez rien de la montée en température des Bleus, notamment avant leur demi-finale face à l'Espagne. Coup d'envoi 21h heure française à Arlington dans le Texas où une partie de nos envoyés spéciaux est déjà présente. On parlait de la sélection espagnole avec un Nicolas Pelletier qui a assisté au premier quart d'heure de l'entraînement. Nico Williams, c'est une des infos, hein, qui n'est toujours pas sûr de débuter. Est-ce une chance pour les Bleus? On en saura plus dans les heures qui viennent. On vous attend toujours au 32-16. Venez échanger vos avis, vos espoirs, vos craintes avec nos experts. Vous savez que ce lien, cette proximité entre vous et l'antenne, c'est la promesse de RMC. Vous n'hésitez pas à en profiter. Le 32-16, Adrien vous attend au standard. Le WhatsApp de RMC, venez papoter avec nous, le 06 12 424 424, ou encore le chat de la chaîne YouTube de l'After. Messieurs, l'Angleterre se cherche des problèmes. Ah là là, Mick Jagger et les Rolling Stones, on adore.
Tu vas avoir des ennuis. Hein.
Ah là là,
tu vas avoir des ennuis avec
les Beatles, Lennon, Paul McCartney, évidemment. Hey Jude,
c'était ton préféré dans les Beatles?
Moi?
Ouais.
Paul McCartney.
Paul McCartney?
Non, évidemment. Non, oui.
Ça se défend.
Pourquoi séparer les quatre légendes de la pop anglaise? La pop, on a le droit, ouais, pour les Beatles.
Là, pour le coup, c'est vraiment de la pop. Là, ouais, ça se sent direct.
Bon, je vous le disais, l'Angleterre qui se cherche des problèmes parce que, bah, pour la quatrième fois de son histoire, l'Angleterre va disputer une demi-finale de Coupe du Monde. 66, 90, 2018. Les Three Lions sont en course pour remporter une deuxième étoile. Qui sait? Les Anglais qui ont éliminé la Norvège hier en quart de finale, ils étaient menés 1-0. Ils se sont finalement imposés 2-1 grâce à un doublé de Jude Bellingham. Cinquième et sixième but, hein, au passage, en open play, comme on dit, sans pénalty, hein, pour le numéro 10 anglais dans ce mondial. Is football finally coming home? C'est une nouvelle fois la question que se pose toute la perfide Albion. Alors lui, il ne rentre pas encore à la maison. C'est Aurélien Tiersin qui était au commentaire de ce Norvège-Angleterre sur RMC. Il prolonge le plaisir à Miami. Salut Aurélien.
Salut Simon, salut les gars, salut à tous.
Salut Aurélien. Salut.
De toute façon, il faut savoir qu'Aurélien Tiersin ne rentre à Paris que pour faire une lessive rapide, voilà, changer les fringues dans la valise.
J'ai eu l'occasion de voir ça à Rabat, en fait. Lui, c'est un globe-trotteur.
Et zou, il repart. Alors Théo, notre producteur, me rajoute sortir en boîte de nuit également.
Non, restons sur sportif.
Je parle sur le contrôle de la direction éditoriale de cette émission.
Il faut savoir tout faire.
Surtout quand on suit les Anglais, il faut être solide au comptoir également, mon cher Aurélien, et je sais que tu as fait tes preuves dans ce domaine. Un petit mot d'abord, Aurélien, sur la performance des Anglais hier, portée, je le disais, par un immense Bellingham, hein, qui a connu une saison compliquée au Real. Et puis quand même bien aidé en seconde période par les entrants, les changements opérés par Tourelle à partir de la mi-temps.
Ouais, alors bah moi les changements de Tourelle, justement, j'ai pas tout compris parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont changé de position, notamment le latéral droit.
Ah oui, ça va en parler, ouais.
Reece James était un peu sur une jambe, Kwanzaa est suspendu, donc il y a eu plein de tests, il y a Ezri Kwanzaa qui a commencé à droite. Bref, finalement ça a tenu parce que quand même performance des Anglais, Erling Haaland n'a pas marqué. Alors, il est probablement blessé, touché à la cuisse puisqu'il sort pendant la prolongation, il était amoindri visiblement, mais grosse perf défensive des Anglais de collectivité, d'union, de combativité, ça c'est déjà la force des Anglais et ils n'ont pas été extraordinaires dans le jeu. Non. C'est vrai, globalement dominé par les Norvégiens, on va dire, entre la 20e et la 35e et puis en début de seconde période. Mmh. Mais moi j'avais quand même la sensation que quand ils accéléraient, Kane et surtout Bellingham, ben, c'était beaucoup plus fort que la défense norvégienne. Finalement, ils ont galéré vraiment, ils auraient fait avant les 90 minutes, sinon ils seraient pas allés en prolongation. Mais moi j'ai quand même senti une équipe assez sûre d'elle, qui a pas paniqué plus que ça. On peut revenir sur les problèmes arbitraux selon les Norvégiens, mais pour moi il y a vraiment faute de Haaland sur Elliot Anderson sur le but refusé, oui, aux Norvégiens, ouais, en début de seconde période. Donc en fait moi j'ai pas été impressionné par les Anglais évidemment, mais il y a quand même cette combativité et cet esprit d'équipe qui est quand même assez impressionnant.
Younes, Elton, votre avis sur la...
Mais vous savez pourquoi on a refait tirer le corner? Moi, ça, j'ai pas...
Parce que la faute, elle est avant, Younes.
D'accord. Ouais. D'accord.
C'est okay. Parce que non, mais c'est parce que si on a retiré le corner plutôt que de donner un coup franc, c'est parce que c'est ouais. Avant ouais, le coup de sifflet ça, qui dit qu'on peut d'accord. On peut jouer.
D'accord.
Votre sentiment sur la performance des Anglais, est-ce que vous partagez le sentiment d'Aurélien qui n'a pas été foudroyé par la maîtrise des Anglais, même si quand ils ont appuyé, ils ont montré qu'ils étaient.
Mais moi, c'était une performance qui a été globalement décevante. Moi, la moins bonne prestation de l'Angleterre sur la Coupe du Monde.
À ce point-là. Ah, ouais.
Ah oui, à ce point-là. Moi, je te le dis parce que entre la 52e minute et le but de Bellingham sur une bourde de Nyland, t'arrives pas à tirer, t'as pas un tir cadré. Quand bien même, t'essayes d'impacter avec les changements. Après, faut mettre quand même du contexte. Aurélien a commenté la rencontre. C'était Miami. Taux d'humidité très important.
Ouais.
La chaleur.
Elle était très chaud, ouais. Pour une fois, je suis d'accord. C'était très lourd.
Elle était suffocante. Fallait voir l'état des joueurs au cooling break. Tout de suite, ils se jetaient sur les serviettes et sur les bouteilles d'eau. Donc, ça, faut mettre du contexte. Mais toujours est-il que quand Thomas Tuchel, en zone mix, enfin, en interview d'après-match, il n'est pas content.
On va y revenir. Évidemment.
Il n'est pas content. Ça veut dire que la prestation d'Angleterre ouais. a été plutôt décevante. Et t'as eu des faits de jeu qui ont tourné en ta faveur. Donc aujourd'hui, du côté de l'Angleterre, faut pas se satisfaire du fait de revenir en demi-finale de Coupe du Monde après 2018, mais davantage regarder sur le moyen terme. Et le moyen terme, c'est l'Argentine et ta capacité à élever ton niveau de performance, en sachant que t'as encore des inquiétudes sur ton 11 de départ. Parce que moi, plus ça va, mais sur la phase éliminatoire, quand je regarde l'Angleterre contre la République démocratique du Congo, contre le Mexique et donc contre la Norvège, moi, à chaque fois, je me dis quelque chose. Simon, Aurélien, Younes, l'équipe qui termine est mieux que l'équipe qui démarre. Ouais, et vrai. Ça me pose un problème.
C'est pour ça, Younes, avant de te faire la passe, que je disais à Aurélien, l'entrée des remplaçants, je trouve qu'on a vu un bon Saka hier. Moi, il m'a montré des choses qu'il avait rarement montré. Alors, c'était mieux que Madueke, notamment dans l'exécution et même dans la versatilité. Il a fait des choses auxquelles il nous avait pas habitués. Moi, il a tendance à m'agacer. J'ai été un petit peu déçu par Aizé, mais Saka a été bon, et je cherche le nom de celui qui m'a plu.
Morgan Rodgers,
quand même.
Voilà, Spence aussi qui est rentré.
Spence également.
Très bon match. D'ailleurs, pour moi, il y a penalty pour l'Angleterre, penalty qui a été annulé par Clément Turpin après assistance vidéo. Bon, ça c'est encore autre chose, mais Morgan Rodgers. Ouais. D'ailleurs, c'est tout le cœur du sujet, ce dont on va parler après. Donc la bisbille Tourelle Bellingham, parce que la presse aussi cherche des noises entre les deux, qui visiblement, selon la rumeur, en tout cas, ne s'aime pas, et selon la rumeur, Thomas Tuchel préférerait Morgan Rodgers. C'était le débat avant la Coupe du Monde. Rodgers doit-il prendre la place de Bellingham dans le 11?
On va évidemment reparler de ce qui s'est dit entre les par micro interposé entre Bellingham et Tuchel après la rencontre. Avant ça, Younes, je voulais t'entendre parce que c'est vrai que ce débat, on l'avait avant la Coupe du Monde. Rodgers qui a fait une saison exceptionnelle du côté d'Aston Villa. On pensait que Tuchel allait l'installer en 10 titulaire dans cette équipe. Et puis, a-t-il cédé à la pression, à l'état de forme d'un Bellingham qui prouve que sa saison ratée au Real, tronquée par les blessures, n'était pas un bon indicateur. On se souvient qu'un Gary Neville, avant la compétition, a dit, je vais pas le dire dans un langage aussi fleuri que l'ancien latéral anglais, mais il disait, tes stars, tu les mets sur le terrain. A-t-il ponctué les stars, tu les mets sur le terrain, et donc Bellingham, tu le fais jouer. Younes, un mot sur la prestation. Sur la prestation Bellingham et sur les Anglais hier.
Non, mais comme vous l'avez dit, c'est les entrants qui ont fait un peu la différence. Moi, j'ai beaucoup aimé l'entrée de Spence. Ouais. Et à un moment donné où c'est James, je crois, qui rentre, ou Roger, je ne me rappelle plus.
C'est Rick James qui rentre.
Et qui fait basculer Bellingham en 6 et qui met Aizé en 10. Eh ben, ça a déstabilisé carrément, parce que tu sais que Bellingham, il aime bien les chasser. Donc, en ce poste de numéro 10, tu prends pas trop, trop l'eau au milieu de terrain. Donc, lui, il peut aller presser. T'as toujours ces sentinelles, les deux numéro 6, qui te gardent ce milieu de terrain. Et lui, quand il est passé un peu plus bas, il a essayé d'aller chasser et ça a ouvert des espaces face à des équipes comme l'Argentine, l'Espagne, la France. Ben, tu peux prendre l'eau. Donc, son meilleur positionnement pour moi, c'est en 10. Et il le démontre depuis le début de cette compétition. C'est l'homme fort de l'Angleterre. Après, on attend plus, bien sûr, des côtés comme Madueke, Saka, qui rentre en cours de jeu, qui est pas mal, mais qu'on attend plus de lui. Et un Gordon que moi, j'aime beaucoup parce qu'il est décisif. Et sur le côté gauche, moi, j'attendais plus du côté droit, mais c'est sur le côté gauche qu'il y a plus de fulgurance, où un Gordon est libéré. Et donc voilà, c'est les hommes forts, avec un Kane bien sûr qui occupe beaucoup les espaces, pour un Bellingham qui se projette beaucoup dans la surface. Donc ce trio pour moi me plaît beaucoup, et il y a une défense centrale qui est assez costaud, qui sait résister au centre et aux assauts. On l'a vu contre le Mexique où comme je l'ai dit hier, il y a eu beaucoup de centres, mais qui sont imprenables sur le jeu aérien. Donc voilà, c'est pas la plus belle équipe de l'Angleterre que j'ai vue, mais ça suffit pour aller jusqu'en demi-finale avec un Bellingham des grands jours à chaque fois qui te permet à l'Angleterre de passer à chaque fois avec le doublé qu'il a mis.
Moi, je vais me permettre de souligner la performance. Alors, ballon dans les pieds d'un John Stones qui est très intéressant.
Moi, je suis d'accord.
Sa faculté à distribuer le jeu.
Sa rentrée contre le Mexique et même sa lecture de jeu sur la situation sur le talent, c'est un moment clé.
Un joueur exceptionnel et je pense, là, je parle sous le contrôle d'Aurélien et de vous, messieurs, qu'il a, par sa qualité de distribution, bien compensé l'absence d'un Declan Rice qui est sorti, ça a un petit peu surpris tout le monde à la mi-temps. On rappelle qu'il était un peu diminué la semaine, il a été touché par un virus.
Trois jours, il était pas.
Et les conditions météo n'ont pas dû arranger. Mais bon, choix quand même osé de la part de Tourelle de le sortir dès la mi-temps, Aurélien.
Bah oui, mais tu l'as dit, il n'y avait pas le choix. Il savait que le match serait long dans les conditions qu'Elton a rappelées. Il faisait 33, 34. C'est vrai qu'on transpirait rien qu'à rester assis. On parle souvent de forte chaleur aux États-Unis, mais pour la première fois de la Coupe du Monde, moi j'ai vraiment ressenti une atmosphère vraiment étouffante où on a vu les gars galérer. Bellingham l'a dit aussi en après-match, jouer dans ces conditions atmosphériques-là, c'est compliqué face à la Norvège. Et il est sorti. Elliot Anderson aussi, moi je l'ai trouvé plutôt très bon hier. Et Reece James dans le cœur du jeu, bon là je l'ai trouvé un peu plus compliqué dans un rôle qu'il connaît aussi avec Chelsea, je l'ai préféré à droite, mais bon, tout ça s'est réorganisé au fur et à mesure du match avec toujours cette cohérence collective, parce que ça on parle, ouais ok, offensivement c'était pas extraordinaire hier, mais moi je redis, ne pas prendre de but contre la Norvège, en tout cas ne pas prendre de but d'Erling Haaland et de flots d'occasion, c'est plutôt pas mal, parce que la Côte d'Ivoire et le Brésil, ils ont essayé de jouer et ils se sont fait crucifier. Donc les Anglais aussi, ils savaient qu'ils n'allaient pas partir à l'abordage, et l'important c'était de tenir le plus longtemps possible face à Haaland.
Messieurs, un mot, on est obligé là de vous entendre sur ce Jude Bellingham. Younes, t'étais au cœur du débat qui anime les observateurs, qui nous anime dès qu'on parle de ce joueur qu'on a longtemps vu comme un 8, un joueur box to box, même si l'expression est un peu galvaudée, qui travaille autant dans son camp que dans le camp adverse depuis sa première saison au Real. Il nous prouve quand même qu'il est encore plus fort quand il est proche du but adverse. Alors moi, je parle sous votre contrôle, il m'a rappelé le prime Ricky Kaka, moi, hier soir, dans cette faculté à dominer le match.
J'ai une autre analogie,
moi. À rouler sur la défense adverse. Physiquement, techniquement, dans l'exécution, il est injouable en ce moment.
Non, mais il a se chaloupé un peu de Zinedine Zidane, un peu, vous vous rappelez il y a un peu de ça. Après, il est capable de descendre plus bas dans le terrain pour animer le jeu. Et aussi cette capacité, cette faculté à aller dans la surface. Donc on peut le qualifier de box to box, même si sur les matchs qu'on a vus avec l'Angleterre dernièrement, il joue plus en numéro 10, mais il est capable de tout faire parce qu'il a un coffre qui est exceptionnel. Il sait faire les efforts, les contre-efforts, il sait presser, il sait tout faire, ce garçon.
Le premier but, notamment hier, il est exceptionnel.
Le premier but est magnifique parce qu'à un moment donné, je me dis, il va laisser passer le ballon pour Madouké, et en fait, c'est une feinte. Et déjà, la prise de balle.
Sur la prise de balle, il fait la différence.
La prise de balle, elle ne ment pas. Et après, derrière, il va croiser. C'est un super but, autant par son exécution que par le momentum. Parce que le momentum, t'as la Norvège qui est pas loin tout à l'heure, enfin, précédemment d'avoir le 2-0. Et là, ce but, ça renverse la tendance. Et là où je voulais faire une analogie, moi, c'est beaucoup plus dans un rôle à la Thomas Müller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Thomas Tuchel, a bien compris que le meilleur rôle de Jude Bellingham, c'était un rôle tout terrain. Dans cette capacité d'attaquer les espaces, il bénéficie du fait que t'as un Harry Kane qui est capable de ressortir de la surface et donc de lui libérer de l'espace pour mieux l'attaquer. Et ça, c'est un contexte qui est parfait pour ses qualités. Ce qui est une rupture par rapport au Real Madrid. En fait, attaquer les espaces, c'est pas forcément évident parce que
t'as d'autres joueurs
à prendre en compte, Kylian Mbappé, Vinicius, et spontanément, en plus en sélection anglaise, on regarde Jude Bellingham. Et ça, c'est un facteur qui est très important. Tu vois, Gordon, dès qu'il a le ballon, spontanément, il va avoir quoi ? Jude Bellingham.
Et on en revient à ce qu'on disait un petit peu plus tôt dans l'émission, c'est-à-dire qu'il est surveillé, il est cherché par ses coéquipiers, mais il est surveillé par les adversaires et il arrive quand même à performer.
Il arrive à apparaître.
Rapidement, Younes, parce qu'il faut qu'on parle justement de la petite embrouille avec Thomas Tuchel. Ouais.
Bon, après, c'est à chaud, hein, vous savez très bien, avec l'excitation, l'adrénaline.
Le coach a sorti ça après. Je sais pas
justement,
si
justement. Attends, laisse Aurélien nous rappeler ce qui s'est dit justement après la rencontre. Aurélien, en gros, oui, résume-nous ce qui s'est dit.
C'est le numéro 10, ça tourne. Ah ouais, on anticipe. Bah, en fait, c'est parti donc du match, du niveau du match un petit peu moyen, et on peut écouter Thomas Tuchel qui, au micro de la Fox, donc le diffuseur américain, juste après le match, nous rappelle qu'il est pas très content du niveau de cette partie. Thomas Tuchel.
Je suis impressionné par le boulot, les efforts, mais je suis aussi un coach de foot et je pense qu'on peut mieux faire. Je pense que ce n'était pas un match de haut niveau.
Et donc les petits journalistes anglais, ils sont contents, ils vont aller en zone mixte, ils vont dire ça à Jude Bellingham, vous avez entendu le coach, il n'est pas content, vous avez fait un match un peu pourri, vous répondez quoi à ça? Et Jude Bellingham, il va répondre.
Peut-être qu'il ne sait pas ce que c'est de jouer dans ces conditions contre Haaland, Odegaard, Moussa, Sorloth. Ce n'est pas une équipe facile à jouer. On a essayé de créer un environnement positif et on devrait continuer. Vous n'allez pas gagner tous les matchs en vous faisant 1000 passes. Parfois, il faut savoir gagner moche. Et on a fait ça ce soir.
Et puis Aurélien, la magie de la radio, c'est que même sans les images, parfois on a la vision. La tronche de Bellingham au moment de répondre, il y a un peu de dédain, il y a un peu de mépris qui va avec cette phrase. Ah oui. C'est magnifique.
Bah quand tu vois le match que fait Bellingham, où il a pressé, tu l'as vu avec les mains sur les genoux, fatigué de faire des contre-efforts, des efforts d'attaquer et de défendre. Et t'as un coach après qui dit ça. Il doit avoir les boules, il doit se dire, moi j'ai couru 13-14 kilomètres, et lui il commence à nous dire que c'est pas un bon match, il aurait dû venir courir à notre place. Mais après je pense qu'il y a une petite amertume aussi, je sais pas s'il y a un contentieux entre les deux, mais je pense qu'il y a un contentieux.
Aurélien, quelle était l'ambiance auprès de tes confrères anglais, est-ce que ça a fait beaucoup réagir?
En fait, pour dire la vérité, moi, en direct, comme j'ai pas vu l'interview de la Fox, parce que je descends de la tribune commentateur directement en zone mixte, je me rends pas compte de ça. Et alors après, bon, j'ai un anglais correct, mais avec leur accent britannique, en fait, au début, j'entends pas bien ce qu'il dit, et je comprends. Moi, je vois pas vraiment le regard de Bellingham, donc j'entends pas qu'il y a un problème. Après, la question est répétée à Pickford, qui répond quelque chose d'encore plus tranquille. Mais c'est vrai qu'on voit les yeux de Bellingham, on sent qu'il est agacé.
Ah oui.
Mais il est agacé parce qu'il sent une hostilité de la presse depuis des mois, voire des années. En fait, il y a toujours un truc autour de Bellingham. J'étais avec Andy Brassel, qui est un collègue francophone, qui a un podcast on the continent, qui connaît bien la Liga espagnole, et qui dit, en fait, Bellingham, il est trop confiant. C'est un peu le Mbappé anglais. En fait, il est trop confiant et il est pas assez anglais de cette manière-là. Et il y a toujours une espèce d'hostilité envers lui, et il le ressent, Bellingham. Et même s'il est très diplomatique, il répond toujours de manière nickel, il n'y a rien qui dépasse. Mais quand il a quelque chose à dire, il le dit, il est ultra confiant. Après, pour ce qui est des supporters, des journalistes, tout ce qu'on disait avant, en fait, le débat qui existait, Rodgers, Bellingham, en fait, tout a volé en éclats. C'est le joueur des grands moments, c'est un joueur de classe mondiale, c'est lui qui porte l'Angleterre, en fait, avec Harry Kane, évidemment. Mais là, dans les moments où ça compte, où Kane disparaît un petit peu, finalement, c'est Bellingham qui émerge. Et il y en a, on dit, mais on comprend pas le problème, en fait. Bellingham, c'est notre superstar. C'est notre superstar à nous. Laissez-le tranquille avec ça.
Elton, sur Jude Bellingham.
Non, mais moi, déjà, par rapport à la sortie de Jude Bellingham, sur le fond, je comprends, parce que c'était à chaud dans tous les sens du terme. Ouais. T'étais à Miami, il faisait extrêmement chaud, et là, tu sors d'une qualification en demi-finale. C'est la première demi-finale à venir pour Jude Bellingham. Et je pense qu'il a voulu recentrer la performance autour de ses coéquipiers, autour de la performance qui est restée quand même historique, en mettant en avant que t'avais aussi un adversaire, parce que le football, c'est un rapport de force, et l'Angleterre ne joue pas seule sur le terrain. Maintenant, sur la forme, on est obligé de dire, c'est une sortie qui est ratée par rapport à ce que dit son entraîneur, parce que son entraîneur, il est aussi sur de l'exigence. Je vais même te dire quelque chose, Simon, je préfère que Thomas Tuchel soit réaliste plutôt qu'opportuniste. Ça veut dire quoi? Parce que si Thomas Tuchel, il les savate après une défaite d'Angleterre sur une Coupe du Monde, moi je dis, c'est opportuniste de charger tes joueurs. Mais là, il profite du fait que l'Angleterre se qualifie, donc euphorie, t'es positif pour recentrer. Les gars, on n'a rien gagné. Dans 4 jours arrive l'Argentine. Et moi, la sortie de Jude Bellingham sur la forme, elle est ratée, parce que là, il donne à manger aux journalistes qui n'attendaient que ça. Parce que l'histoire de Thomas Tuchel, quand il construit sa liste, c'est qu'il veut pas s'embarrasser, notamment, de joueurs qui vont être des bombes à retardement.
Tu vas me dire que c'est Bellingham qui est maladroit et Tuchel qui est,
Tuchel n'a pas attaqué Bellingham de front, hein. Il a attaqué
de front.
Ah ouais?
Non, il n'a pas le front, mais bon, il met.
Ah non, c'est pour ça.
La performance collective,
Le collectif, et aussi du match entre la Norvège. Je pense aussi la qualité du match n'a pas été bonne. Donc il y a l'adversaire aussi qui n'a pas été bon. Donc je pense que lui, c'est dans un aspect général. Après, mais Bellingham, lui.
Quand pendant une heure t'es coach, on voyait Thomas Tuchel sur le banc de touche, quand pendant une heure tu tires pas dans le but norvégien, tu peux être frustré. Il y a des erreurs, il y a des approximations techniques. T'es l'Angleterre. L'entraîneur, il peut aussi se dire que moi, je suis déjà focus sur le prochain match et que j'ai pas le temps de savourer cette victoire.
Vous m'enlèverez pas l'idée que c'est une maladresse.
En termes de management.
Il y a une question de timing, il est en position flash, il est encore sur la pelouse. Je pense que tu peux attendre la conférence de presse pour prendre un petit peu plus de recul. Là, je trouve que
il a redit en conférence de presse. Hein.
Ah oui, non, mais ça,
c'est connu au PSG. Il vit avec des émotions qui sont fortes.
Mais moi, je trouve que il est toujours un manager catastrophique. Je trouve que dans le management, il fait beaucoup d'erreurs.
Mais sur quoi
il arrive en Angleterre pour être champion du monde. Donc lui aussi, peut-être il se dit, là, ça fait deux matchs, on passerait crack, je mets un petit coup de fouet, et en demi, on sera meilleur. Et s'il est champion du monde, ça sera le meilleur. Il va pas s'écraser en demi comme tous les coachs anglais qui sont passés avec les Trois Lions. Donc aussi, c'est peut-être simplement du management en avance et il est brillant, en fait.
Je trouve que c'est un peu brutal et peut-être qu'en effet, on n'est pas prêt. Et s'il gagne la Coupe du Monde,
c'est un ressenti.
Simon, il peut arriver avec le Siga en expliquant que j'ai ramené l'Angleterre en demi-finale de Coupe du Monde, mon tournoi, il est réussi. Il aurait pu faire ça. Mais Thomas Tuchel, on le connaît. Lui, il n'y a que la gagne qui l'intéresse. Il n'y a que la performance qui l'intéresse. Et lui, il se dit de manière très honnête. Il le dit d'ailleurs. Moi, je suis un entraîneur de football. Et quand je vois la performance de mon équipe, qui pendant une heure ne tire pas face à la Norvège, je ne peux pas arriver et entre guillemets dire
qu'on s'est qualifié en demi-finale. Encore une fois, le fond et la forme. Moi, je comprends l'agacement de Bellingham. Et
Je l'ai dit. La forme, elle n'est pas bonne.
J'espère pour les Anglais que ça va, donner envie à Bellingham et ses copains de donner tort à Thomas Tuchel.
Parce que si face à l'Argentine tu passes à côté, je peux te dire dans la presse, il y en a qui vont les attendre au tournant.
Et on dira que voilà, il avait qu'à être plus élogieux envers ses joueurs, cajoler un petit peu mieux ses joueurs, leur faire plus de coups. Bon bref, merci beaucoup Aurélien Kelvy. Alors tu vas nous commenter cette demi-finale Argentine-Angleterre, j'imagine.
Oui, absolument. Atlanta. Alors c'est une ville un petit peu moins sympa que Miami, mais c'est pas grave.
Il va nous faire la fine bouche en plus celui-ci.
Bon. Atlanta, c'est vraiment pas bien.
Bon, on a hâte en tout cas et on te retrouve très rapidement sur l'antenne de RMC pour se projeter vers cette alléchante autant qu'indécise demi-finale pour un remake de 1986 pour ceux qui
Pleinement en Argentine Angleterre en phase éliminatoire.
Oui, parce qu'en 98 t'étais jeune encore.
J'étais jeune, j'ai pas vu Saint-Etienne, j'ai sûrement pas vu
le
86.
But de Michael Owen.
Ouais, c'est ça. Mais là, en plus sur une demi-finale extraordinaire.
On en a déjà l'eau à la bouche. Merci beaucoup Aurélien. À très vite sur RMC.